vous rasseoir. Je vous prie de rester dans cette attitude de prière. Nous sommes en train de passer des moments merveilleux, des moments extraordinaires, des moments de nature à nous marquer pour l'éternité, puisque ce sont des moments que nous passons avec le Seigneur et dans sa présence. Alors soyons attentifs à l'action de l'Esprit au milieu de nous. Que toute notre attention soit focalisée sur celui que nous sommes venus rencontrer ce matin, à savoir le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons de le chanter, Seigneur, ton nom est glorieux. Ton nom est le seul nom qui nous a été donné d'en haut, par lequel nous sommes sauvés. Dans ce nom extraordinaire, dans ce nom glorieux, dans ce nom unique, ô Dieu, il y a la victoire, il y a la délivrance. C'est ton nom qui apporte la paix au cœur agité, au cœur troublé. C'est ton nom qui apporte un baume guérissant, Seigneur, au corps malade. C'est ton nom et ton nom seul dont nous avons besoin, Seigneur. Et ta volonté est que ton nom soit prêché à toute la création. Car en dehors de ton nom, il n'y a pas de salut. En dehors de ton nom, Seigneur, c'est la condamnation. C'est la ruine éternelle. C'est l'éternité dans cet étang de feu que tu as préparé au départ, Seigneur, à ces esprits rebelles, à ces démons, à Satan et à tous ces sbires. Mais malheureusement, Seigneur, il y a encore sur cette terre des hommes et des femmes qui n'ont pas encore entendu ce message. Ou des hommes et des femmes qui l'ont entendu, mais de manière tout à fait religieuse. Et ce nom qu'ils ont entendu, Seigneur, n'a rien produit comme effet conséquent, substantiel dans leur vie. Mais ce matin, tu nous fais la grâce, Seigneur, d'être là dans ta maison pour invoquer le nom le plus extraordinaire qui soit. Oh, aide-nous, Seigneur, à recevoir la révélation de ton nom. Car dans la plupart des cas, oh Dieu, nous ne comprenons pas grand-chose quant à la puissance, quant à l'omnipotence de ton nom, Seigneur. Merci pour tout. Merci de nous avoir donné cette capacité, Seigneur, de t'adorer en esprit, en vérité. Merci, ô Dieu, de nous avoir accueillis favorablement alors que tu nous as fait, Seigneur, passer au-delà du voile et tu nous as fait entrer dans le Saint des Saints, dans ces lieux, ô Dieu, où ton trône, Seigneur, est érigé, dans ce lieu, ô Dieu, des anges, des archanges et toutes ces créatures élevées en dignité se prosternent à chaque instant pour proclamer ta sainteté, pour proclamer ta majesté, pour reconnaître en toi le Créateur des cieux, de la terre et de toutes choses. Oh, alléluia. Merci, Maître, de nous aider à grandir dans ta connaissance et dans ta grâce. De nous aider, Seigneur, à expérimenter au quotidien le triomphe de la croix. Car sur la croix, tu as tout accompli. Sur la croix, tu as porté nos souffrances, nos maladies, nos malédictions. Sur la croix, ô Dieu, tu as porté notre culpabilité. Et par ta mort en croix, Seigneur, et ta résurrection d'entre les morts, tu as ouvert le ciel pour quiconque croit en toi, pour quiconque, ô Dieu, confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père, que tu es le Sauveur de l'humanité, et que par ta mort, eh bien, tu nous as sauvés. Merci pour tout. Aide-nous maintenant, Seigneur, à recevoir ta parole et à la mettre en pratique. Bénis ton serviteur, fortifie-le, révèle-le, Seigneur, de ton autorité, donne-lui l'intelligence de l'esprit, Donne-lui de proclamer ta parole, Seigneur, de manière intelligible, compréhensible, afin que tout homme, Seigneur, puisse l'accueillir, puisse l'assimiler. Car c'est alors que cette parole produira des effets glorieux. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Combien c'est un privilège énorme pour tout homme d'invoquer le nom de Jésus. Vous savez, nous l'avons tellement dans la bouche, nous l'entendons un peu partout, et dans notre ville de Kinshasa et à travers toute la République, nous trouvons ce nom sur les devantures des magasins, les devantures des boutiques, etc. Et à force de voir ce nom, à force de l'entendre, à force de le proclamer à tort et à travers, nous avons fini, mes amis, par oublier la puissance, la toute-puissance de ce nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui nous fortifie. C'est le seul nom, mes amis, qui nous accorde la victoire. L'ennemi peut venir avec tous ses démons. Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, eh bien, il finit toujours par partir. Que Dieu nous aide à recevoir de lui la vraie révélation du nom de Jésus-Christ et qu'en même temps, qu'il nous donne de réaliser la sainteté de ce nom pour que nous ne puissions pas le mettre à toutes les sauces, pour que nous ne puissions pas l'avoir tout le temps dans la bouche. Car n'oublions jamais, un des commandements que le Seigneur a donné à son peuple, c'est celui de ne pas prononcer son nom en vain. Mais aujourd'hui, nous avons constamment le nom du Seigneur dans la bouche. Nous devrions nous en repentir. C'est un nom qui fait trembler l'enfer. C'est un nom, mes amis, qui a ouvert le ciel et qui a permis à la grâce, qui a permis à la vie véritable, la vie éternelle, qui a permis à la bénédiction suprême de descendre sur quiconque croit en lui. Amen. Je voudrais revenir sur l'une ou l'autre pensée qui a été exploitée durant le séminaire, attirer une fois de plus notre attention sur ce message singulier, sur ce que la parole de Dieu appelle la bonne nouvelle par excellence, voyez-vous, la seule, puisqu'en dehors de cette bonne nouvelle, concernant la personne du Christ et l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha, il n'y a pas d'autre véritable bonne nouvelle, voyez-vous. C'est la seule, mes amis, et je voudrais aujourd'hui montrer à chacun de nous, comme nous l'avons fait durant les séminaires, la nécessité, l'importance de répandre tout autour de nous le témoignage du Christ. C'est ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Je voudrais à ce stade rappeler chacun de nous, informer ceux qui ne le savent pas, que ce qui nous sauve, ce n'est pas tant les miracles que le Seigneur a accomplis au jour de sa chair. Ce qui nous sauve, ce qui fait que nous soyons pardonnés, réconciliés avec Dieu, c'est sa mort à la croix de Golgotha. Vous comprenez pourquoi, et nous allons le voir, le message de la croix est au cœur de l'évangile du Christ. Et la personne de Jésus, qui il est véritablement, et l'œuvre singulière, l'œuvre sublime qu'il a accomplie à la croix, eh bien ces deux vérités sont intimement liées et indissociables. Si nous oublions cela, nous risquons de passer à côté de la puissance la plus extraordinaire qui soit. Évangéliser, une nécessité absolue. Voilà donc la pensée sur laquelle j'aimerais attirer notre attention. Je voudrais que ça ne soit pas simplement une information que je vous partage, mais que cette vérité, que ce thème puisse susciter dans chacun de nous ce zèle pour l'Évangile, ce zèle pour l'annonce, pour la proclamation de la parole de Dieu. Car si quelqu'un ne rencontre pas véritablement Jésus-Christ, eh bien il reste et demeure dans la perdition. Et s'il lui arrivait de s'en aller, de mourir, de passer dans l'éternité, sans avoir une rencontre réelle, effective avec Jésus, eh bien la personne est perdue pour l'éternité. Sans Jésus, sans l'œuvre de la croix, sans une expérience réelle avec lui, c'est l'enfer assuré. Et je vous dirai, frères et sœurs, que la chose la plus terrible, la chose la plus horrible, la chose la plus, je dirais, la plus stupéfiante qui soit pour un homme, pour un être humain, c'est d'arriver au terme de son voyage ici-bas, au terme de son pèlerinage dans l'espace et dans le temps, et de passer dans l'éternité sans avoir eu l'occasion de rencontrer Jésus. Alors je voudrais que nous le comprenions, que sans Jésus, l'homme est perdu. Sans Jésus, le monde va poursuivre sa descente en enfer. Sans Jésus, le monde continuera à ressembler à un vaste pandémonium, à une vaste nécropole, mes amis, où il n'y a que ossements, où l'ombre de la mort plane. Sans Jésus, le monde continuera à ressembler à cette vaste vallée de la mort. Évangéliser, une nécessité absolue. Voilà donc notre thème de ce dimanche matin. Très rapidement, nous allons lire dans le dernier chapitre de l'évangile de Marc, Marc chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Nous lisons, Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, Jésus se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et qui se rendaient à la campagne. Ce sont les deux fameux disciples d'Emmaüs. Ils revinrent, eux aussi, l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, Jésus se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis, il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Gloire au Seigneur. Avant de quitter cette terre, après avoir accompli la mission qu'il avait reçue de la part du Père, car je vous rappelle que la venue de Jésus sur cette terre n'a pas été un fait dû au hasard. Jésus n'est pas venu en simple visiteur, en simple touriste sur cette terre. Il n'est pas venu en villégiature sur cette terre, pas du tout. Il est venu avec une mission claire et nette. Mission qu'il avait reçue de la part du Père. Il n'y avait personne sur cette terre qui pouvait accomplir cette mission. Personne sur cette terre ne pouvait, mes amis, mettre sur pied un mécanisme, mettre sur pied un moyen qui permette à l'homme de se libérer de la pesanteur du péché qui l'attire chaque jour vers la mort, de sauver l'homme. Personne, mes amis. Aucun ange ne pouvait le faire. Voilà pourquoi lorsque les temps sont arrivés Les moments se sont accomplis. Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses, a visité l'humanité par et au travers de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est venu dans un but. Et il est important que nous le comprenions. Il est venu pour accomplir l'œuvre la plus extraordinaire qui soit. L'œuvre, mes amis, la seule, l'unique, qui sauve l'homme, qui libère l'homme de son état de coupable aux yeux du Créateur, qui libère l'homme de toutes ses chaînes d'esclavage et d'asservissement. La seule œuvre qui permet à l'homme de pouvoir faire face à l'adversaire le plus redoutable qui soit, à savoir Satan et ses cohortes des démons, ses cohortes d'esprits impurs. Avant de quitter cette terre, de retourner auprès du Père, le Seigneur a donné un ordre à ses disciples. Et cet ordre n'a pas concerné que les premiers disciples, pas du tout. Cet ordre concerne, mes amis, tous ceux qui lui appartiennent. C'est donc un mandat, c'est donc une feuille de route, c'est donc un impératif qu'il donne à son Église, l'Église dont il est le chef. Il n'y a qu'une seule Église, c'est celle que Christ bâtit par son Saint-Esprit au moyen de sa parole. Alléluia. En dehors de cette Église, eh bien, il n'y a pas d'église. Certes, il y a des mouvements qui s'appellent l'église de Jésus-Christ. Il y a des dénominations un peu partout qui se réclament de Jésus-Christ, mes amis. Mais laissez-moi vous dire une chose. À la lumière de la parole de Dieu, l'église n'est pas une organisation humaine. L'église n'est pas une entreprise humaine avec un chef à la tête. L'église n'a qu'un seul chef. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui la tête, et tous ceux qui sont en lui font partie de ce corps. Et on n'entre pas dans le corps du Christ, mes amis, comme ça par hasard, au travers d'une religion, au travers d'une croyance, quelle qu'elle soit. Non ! C'est par la nouvelle naissance que nous entrons dans le corps du Christ, que nous entrons dans le royaume de Dieu. Il a laissé cet ordre, d'abord à ses premiers disciples, et puis ensuite à l'ensemble de son corps, pour que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui marchent avec lui, puissent aller à leur tour annoncer, proclamer cette bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dire à l'humanité que le royaume et le règne de Dieu se sont approchés de l'homme, que désormais l'homme peut, malgré son indignité, malgré sa culpabilité, malgré son état abominable aux yeux de son Créateur, cet homme-là peut se réconcilier avec son Créateur et entrer dans une nouvelle vie, la vie véritable à laquelle Dieu destine tout homme. Cette vie éternelle, c'est une vie aux qualités extraordinaires. Car laissez-moi vous dire une chose, que même la vie en enfer sera éternelle. Oui ou non? Eh oui. Les gens vivront éternellement dans cet étang de feu, loin de la face du Créateur. Mais cette vie en Christ, c'est une vie aux qualités incommensurables. C'est cette vie de bonheur et de félicité éternelle après laquelle chacun de nous languit. Il y a dans l'homme cette aspiration à vivre une vie meilleure, à connaître une vie aux dimensions plus que terrestres. Eh bien, cette vie se trouve dans le Créateur. Et en dehors du Créateur, eh bien, il n'y a pas de véritable vie. Jésus a donc laissé cet ordre. Il a donné à son Église une mission. Il a donné à son Église un mandat. Ce mandat constitue la feuille de route de son Église. Et en même temps, cet ordre, mes amis, doit être considéré ou est présenté par le Seigneur lui-même comme étant d'une nécessité absolue. Comme un impératif, mes amis, comme quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Et c'est ce que nous avons essayé de voir durant notre séminaire. Voyez-vous, un impératif, une nécessité absolue. Ce n'est pas quelque chose, mes amis, que nous devons faire au choix ou ne pas faire, quelque chose de facultatif. C'est un ordre. Et face à cet ordre-là, nous n'avons pas d'autre choix que d'obtempérer. Car nous allons voir quelques raisons pour lesquelles nous devons absolument partager cet évangile au nôtre. Commencer d'abord dans notre propre foyer, dans notre famille, et puis dans notre voisinage, et puis ensuite au-delà. Car dans la plupart des cas, nous laissons les gens se complaire dans leurs pratiques religieuses. Nous laissons les gens, mes amis, vivre leur vie comme ils veulent. Ces gens pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'un jour, ils sont nés dans une église, enfin, dans un mouvement qui se réclame du Christ. Ils se disent chrétiens parce qu'ils vivent dans un pays comme le nôtre, où nous avons été marqués par les valeurs judéo-chrétiennes. Voyez-vous, beaucoup pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'un jour on leur a versé quelques gouttes d'eau sur le visage, ou un jour on les a plongés dans un baptistère. Ce n'est pas l'eau qui peut donner cette qualité d'enfant de Dieu à quelqu'un. Ça peut être, cette eau peut vous être comme administrée sous forme d'aspersion ou d'immersion, mais cette eau reste eau. Elle est incapable de sauver qui que ce soit. Et du reste, on ne baptise dans le vrai sens du terme que ceux qui ont fait l'expérience avec le Seigneur. Le baptême est réservé à ceux qui ont cru. Nous l'avons d'ailleurs lu. Celui qui croira et qui sera baptisé. Il faut d'abord croire. Il faut d'abord comprendre qui est Jésus. Il faut d'abord réaliser l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il faut faire une expérience avec lui. Sur le plan spirituel, alors seulement, passer par les eaux du baptême. C'est seulement de cette manière-là que le baptême pourra avoir un sens pour nous. Voyez-vous, gloire au Seigneur. La bonne nouvelle. Nous devons l'annoncer. Bonne nouvelle qui concerne une personne et l'œuvre que cette personne a accomplie à la croix. Au cœur de cette bonne nouvelle, mes amis, il n'y a pas une simple croyance religieuse. Au cœur de cet évangile, il n'y a pas une simple philosophie de vie. Oui, il y a une certaine manière de vivre lorsque nous sommes en Christ. Mais au cœur de cet évangile, il y a la personne incomparable, la personne admirable, la personne extraordinaire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus le Messie, Jésus la lumière du monde, Jésus le salut des peuples, Jésus la gloire d'Israël. Au cœur de l'évangile, mes amis, de ce message unique, de ce message singulier, il y a une personne. Voilà pourquoi nous appelons ce message la bonne nouvelle. Elle est une bonne nouvelle par excellence, puisque cette bonne nouvelle nous vient d'en haut, puisque cette bonne nouvelle est d'origine céleste. Ce n'est pas un message produit par l'intelligence de l'homme, pas du tout. Ce n'est pas un message, mes amis, né lors d'un conclave religieux quelconque, où certaines personnes très intelligentes, où certains érudits se seraient retrouvés pour dire, bon voilà, nous allons créer une nouvelle, un message que nous allons appeler bonne nouvelle, etc. Et puis nous allons tout faire pour que ce message se répande un peu partout. Pas du tout. Le message vient d'en haut. Car il n'y a que ce qui vient d'en haut qui est susceptible de sauver l'homme qui est sur terre. Rien de ce qu'un homme peut offrir ou ce qu'un homme offre peut apporter une plus-value à la vie d'un autre. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est donc un message intimement lié à une personne. Contrairement à tout autre message religieux. Voyez-vous. Contrairement à toute autre idéologie ou philosophie, quelle qu'elle soit. Le message de l'Évangile est un message vivant parce qu'il repose sur Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il repose sur celui qui nous a créés en son image et à sa ressemblance. Voilà le contenu du message que nous devons prêcher. Prêcher Jésus et en même temps prêcher l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Vous ne pouvez parler que de Jésus seulement, pas du tout. Jésus et sa mort à la croix. Il y a des religions qui croient en Jésus, mais qui n'acceptent pas que ce Jésus est mort. Et bien, laissez-moi vous dire une chose. Ce genre, cette perversion, cette espèce, cette approche qui consiste à travestir la vérité, vient de l'ennemi. Car l'ennemi sait très bien que c'est à la croix qu'il a été vaincu. La Bible déclare que à la croix, Jésus a dépouillé littéralement les puissances des ténèbres, a dépouillé littéralement les esprits impurs. Il les a vaincus. Il a écrasé le serpent antique à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi ce message fait peur. Voilà pourquoi le diable le combat. Car il sait que c'est le seul message qui sauve. Oh, alléluia. C'est le seul message qui libère. Et au cœur de ce message, il y a cette déclaration solennelle. Jésus sauve. Nous l'avons chanté. Jésus sauve. Il sauve du péché. Il sauve de la culpabilité. Il sauve, mes amis, du diable. Il sauve de la colère qui est suspendue sur l'humanité comme l'épée de Damoclès. Il sauve de l'enfer. Il sauve des puissants des ténèbres. Oui, Jésus sauve. Nous devons annoncer ce message avec force, car Jésus est avec nous. Car Jésus est pour nous. Il est plus fort que celui qui agit dans le monde. Alléluia. Donc, au cœur de l'Évangile, il y a la personne de Jésus. Il y a l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du calvaire. Cet Évangile est un Évangile vivant. C'est un message glorieux. L'Évangile est éternel, car il est intimement lié à la personne de celui qui tient l'éternité dans sa main. Gloire au Seigneur. Et sa proclamation reste une priorité absolue. Ne vous laissez pas berner par ce que les uns les autres disent ou déclarent, par ce que les uns ou les autres pensent qu'ils sont. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes, eh bien, pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont adhéré à une religion. Même l'Église de la Borne ne peut pas vous donner cette dignité d'enfant de Dieu, ne peut pas vous octroyer la vie éternelle. Pas du tout, mes amis. Aucune religion. Nous devons prêcher ce message, car presque 2000 ans plus tard, vous avez encore des hommes et des femmes qui essayent de connaître Dieu au travers de la pratique religieuse. Des hommes et des femmes qui essayent d'atteindre le ciel par leurs œuvres. Ils vont en pèlerinage à gauche, ils vont en pèlerinage à droite, ils font tel ou tel autre sacrifice. Évidemment, tout cela calme leur conscience. Ils essayent de se persuader que tout cela leur ouvrira un jour le ciel. Terrible erreur, fatale erreur, gravissime erreur. Un seul ne peut ouvrir la porte du ciel. Un homme, une personne, Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Dieu est amour. Il a visité la terre dans la personne de Jésus. Et depuis que Jésus est venu, depuis qu'il a donné cette mission à ses enfants, et puis depuis, l'Évangile est répandu un peu partout dans le monde. Mais dans le même temps, le diable essaye par tous les moyens d'empêcher l'Église d'accomplir sa mission, de vivre selon son ADN, d'accomplir cette mission urgente, impérative, reçue de son Sauveur. Nous savons tous, mes amis, et la Bible est là pour nous le rappeler, notre Dieu se révèle comme étant le Dieu de toute grâce, le Dieu qui est lent à la colère et riche en bienveillance, n'est-ce pas ? le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est amour. Et dans son amour et dans sa bienveillance, eh ben, il ne cesse de nous bénir. Il nous envoie le soleil, ce soleil qui nous réchauffe, qui nous communique la vitamine D et tant d'autres bienfaits. Il nous envoie la pluie, même si de temps à autre, elle dérange un tout petit peu, mais on en a besoin. Oui ou non? On a besoin d'eau, elle est indispensable, la terre doit être arrosée, elle doit être rendue fertile. Et la pluie joue ce rôle-là. Le Seigneur nous donne l'air que nous respirons, voyez-vous. Nous n'avons fait aucun effort pour créer ces conditions afin que nous puissions vivre comme il faut sur cette terre. Non, il y en a un qui a rempli toutes ces conditions d'habitabilité, qui a tout fait pour que la terre puisse accueillir la vie, de la vie humaine. Et depuis l'homme est sur terre, Dieu veille sur tout. Il lui envoie, il lui dispense de son ciel toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de grâces qui contribuent à son épanouissement, qui contribuent à son bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce que nous voyons, la nature, tout ce que nous voyons, mes amis, et autour de nous, tout cela est la manifestation de la bienveillance de notre Créateur. Jésus lui-même est venu. Il nous a apporté la révélation de notre Dieu. Il a dit que c'est un Dieu d'amour, oui ou non? Dieu est amour, en effet. Mais laissez-moi vous dire une chose. Au-delà de toutes ces bénédictions matérielles, au-delà de toutes ces grâces qu'il ne cesse de nous accorder, l'intelligence dont il nous a dotés, qui nous permet de créer, d'innover, d'améliorer nos conditions de vie, cette intelligence qui nous met au-dessus du règne animal, etc., tout cela est un acte de bonté, de bienveillance, d'amour de la part de notre Dieu. Donc, au-delà de tout cela, mes amis, Dieu veut nous bénir davantage. Il veut nous accorder la grâce par excellence. C'est-à-dire, il veut lui-même venir jusqu'en nous, entrer en relation avec nous. Mais comment pourrions-nous comprendre? Comment saurions-nous que ce Dieu-là nous aime, qu'il aimerait entrer en communion avec nous, si personne ne nous annonce la bonne nouvelle? Elle est d'une nécessité absolue. Autour de toi, au-delà, l'homme a besoin du salut de Dieu. Alléluia. L'homme a besoin de la grâce de son Créateur. L'homme a besoin d'entrer en communion avec le Créateur. Et la question fondamentale est celle de savoir comment l'homme peut-il entrer en communion avec son Créateur. L'homme a toujours été hanté par l'au-delà, n'est-ce pas? Regardez dans toutes les civilisations, l'homme a toujours cherché à savoir ce qu'il y a au-delà de la tombe, outre-tombe, voyez? Et en même temps, ne connaissant rien, eh bien, l'ennemi l'a inspiré. C'est ainsi que dans chaque civilisation, les gens ont conçu la mort d'une certaine manière. Pour certaines civilisations, c'est un long voyage pour lequel il faut se préparer, il faut avoir ses esclaves, il faut prendre son cheval, etc. Enfin bref, mille et une choses sur la vie outre-tombe, voyez-vous. Et en même temps, l'homme a toujours cherché à entrer en contact avec celui duquel il a été fait à l'image. Cette recherche de Dieu, mes amis, n'est pas le propre d'une religion. La Bible déclare que Dieu a placé la pensée de l'éternité dans le cœur de tout homme. Tout homme, mes amis, est fait à l'image de Dieu. Et par conséquent, tout homme a en lui cette aspiration à connaître le Créateur. Cette aspiration à connaître d'où il vient. Voyez-vous? Et c'est ce qui a poussé les gens à se créer toutes sortes de religions. Et le diable, sautant sur l'occasion, leur a donné des fausses prophéties, des fausses révélations. Et c'est comme ça que les religions sont nées. Mais aucune religion, même pas le judaïsme, qui a été la première religion monothéiste, ne peut amener un homme au ciel. Le salut est un don. Le salut est une grâce. Vous ne pouvez pas l'acquérir par les bonnes œuvres, pas du tout, mes amis. Vous ne pouvez pas le trouver au travers d'une religion. Il n'y en a pas. S'il y avait une seule religion qui pouvait assurer à l'homme la vie éternelle, le Fils de Dieu n'aurait pas souffert autant. Il se serait contenté de dire depuis son ciel de gloire, dire aux gens, écoutez, allez dans cette religion et vous serez sauvés. Non, la religion est vaine, parce que tous ont péché. Tous, sans distinction. Tous ont péché. Et par conséquent, tous sont privés de la présence de Dieu. Comment voulez-vous qu'un homme puisse vous sauver, même s'il prétend être prophète, parce que lui aussi est pécheur comme toi? Comment voulez-vous qu'un homme puisse t'apporter quelque chose qu'il n'a pas reçu? Tous, nous sommes enfermés dans la désobéissance, dans cette réalité sinistre, cette réalité funeste, cette réalité mortifère que le péché. Et à cause du péché, le diable peut étendre son règne. Un règne de destruction. Un règne qui se manifeste, mes amis, par toutes sortes de souffrances. Dieu n'a pas destiné l'homme à la souffrance. Loin de là. La souffrance et toutes ces choses-là, mes amis, qui accablent l'homme, sont la conséquence du péché. Quand il y a des carcasses animales, eh bien, vous n'avez pas besoin de sonner de la trompette pour que le charognard s'approche. Oui ou non? Ben oui. Quand il y a des cadavres, des carcasses animales, eh bien, les odeurs dégagées par ce corps en putréfaction vont attirer le vautour, vont attirer les hyènes, bref, tous ces charognards. Voyez-vous? Vous n'aurez pas besoin de claironner. Il en aimait de même, mes amis. Le monde gît dans le mal. Le monde gît dans le péché. Et par conséquent, eh bien, l'ennemi est à l'aise. Il peut s'adonner à la destruction de la race humaine comme il veut. Car personne ne peut lui résister. Personne. Aucun homme. Aucun prophète. Aucun apôtre. Aucun bishop. Aucun trichope. Aucun homme, mes amis, quelle que soit sa noblesse, quel que soit son rang religieux ou quoi, aucun homme ne peut venir en aide à un autre homme et l'arracher des griffes du diable. Comment le pourrait-il? Parce que lui-même est déjà dans ces griffes-là. Voilà pourquoi le Seigneur est venu sur cette terre. Il est venu pour payer le prix de notre rachat, pour nous délivrer, mes amis, de notre culpabilité. Nous devons donc prêcher ce message, parce que ce message est le seul message qui révèle à l'homme qui il est, premièrement, ensuite, ce qu'il doit faire pour se réconcilier avec son Créateur. Vous connaissez tous l'histoire du prophète Ésaïe, qui un jour est allé au temple pour adorer. C'était une très bonne décision. Il arrive au temple, il entre dans le lieu saint, et là, quelque chose se passe. La Bible nous dit que Dieu se révéla à lui dans une vision extraordinaire. Et dans cette vision, il voit le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissant tout le temple. Il voit des créatures célestes se prosterner devant lui et proclamer sa sainteté. Ces créatures reconnaissent que tout l'univers est rempli de la gloire du Dieu d'Israël. Voyez-vous? Dieu se manifeste. Et quelle va être la réaction d'Ésaïe? Eh bien, il va crier. Il va dire, malheur à moi. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Malheur à moi. Quand il est confronté à la sainteté de Dieu, sa vraie nature se révèle. Quand il est confronté, mes amis, à la présence du Seigneur, ce qu'il est véritablement se révèle. Il réalise, eh bien, qu'il n'était pas différent de ses contemporains. Alors qu'avant ça, c'était un prédicateur. Un homme qui dénonçait le mal, qui rongeait son pays, qui rongeait la société. Mais lorsqu'il est confronté à la sainteté de Dieu, il réalise qu'il était pécheur comme les autres. Mes amis, il n'y a que la présence de Dieu qui peut nous faire comprendre, qui peut nous montrer qui nous sommes véritablement. La religion nous donnera une image qui est fausse, erronée. Voyez-vous? Puisque chaque religion a son standard de sainteté. Oui ou non? Oui, son standard à partir duquel on peut dire, « Oh là là, lui c'est un bon pentecôtiste. Lui c'est un bon baptiste. Lui c'est un bon kimbanguiste. Lui c'est un bon catholique. Lui c'est un bon protestant, n'est-ce pas? Ah ben oui, parce que chaque religion a sa façon de fonctionner. Et quand on fonctionne selon le prescrit de la religion, eh bien aux yeux de la religion, on est bien. » Mais ce n'est pas ça qui permet à l'homme de savoir exactement qui il est. C'est la présence de Dieu. Et cette présence se manifeste au travers de l'Évangile. Car comme je vous l'ai dit, l'Évangile est une personne. Et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, alléluia, Jésus. Et lorsque nous entendons le message de l'Évangile, le Saint-Esprit secoue notre conscience. Il nous montre qui nous sommes véritablement. Il nous convainc de pécher. Il nous fait prendre conscience du besoin dans lequel nous nous trouvons. En même temps, le Saint-Esprit tourne nos regards vers le seul lieu où nous pouvons avoir le salut, le pardon et la réconciliation. Ce lieu-là ne se trouve pas à Rome, ne se trouve pas à Jérusalem, ne se trouve pas à la Mecque. Ce lieu-là, c'est vers la croix du Christ. L'homme se tourne vers la croix. Et là, la croix, il réalise que le salaire du péché, c'est la mort. À la croix, il réalise qu'il était sous la condamnation du Créateur. Et en même temps, il réalise qu'il y en a un qui a pris sa place. Il y en a un qui est mort à sa place. Il y en a un qui a pris tous ses péchés. Celui-là s'appelle Jésus. Alléluia. Oui, l'Évangile doit être prêché, car c'est la seule puissance, mes amis, capable de libérer l'homme du pouvoir du péché. Le péché est un état mortifère, c'est un état d'asservissement. Comme je l'ai souligné en semaine, on n'apprend pas aux gens à pécher. Mais tout naturellement, l'homme pêche, parce qu'il est pécheur. Alléluia. Il est pécheur, et il manifeste sa nature par toutes sortes d'actes que la parole de Dieu appelle péché. Il n'y a pas de faculté, autant que je sache, à Kinshasa, on forme les mythomanes. On forme les menteurs. Vous en connaissez-vous? Vous en connaissez-vous? Un parent responsable n'apprend pas à son gamin comment il faut mentir. Et pourtant, un jour, nous avons menti. Et pourtant, un jour, nous avons volé. Et pourtant, un jour, nous avons fait le mal. Eh bien, le mal est lié à la nature même de l'homme. Il y a dans l'homme cette propension, cette inclinaison au mal, voyez-vous. Et comme je l'ai souligné, c'est comme un arbre. Voyez, vous prenez un oranger, c'est un arbre qui produit quoi? Des oranges. Maintenant, qu'est-ce qui fait l'oranger? Est-ce le fruit? Non. Parce qu'il y a des périodes où l'oranger ne produit pas de fruits. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'orange que l'oranger cesse d'être oranger. Oui ou non? Donc, ce ne sont pas les fruits. Le fruit manifeste simplement la nature de cet arbre, qui est donc d'être un oranger. Parce que l'arbre est oranger, il produit alors quoi? Des oranges. Il y a des saisons où il n'y a pas d'orange. Mais ce n'est pas pour autant que l'arbre cesse d'être oranger. Il est toujours. Il y a des saisons où il y a peu de fruits, peu d'oranges. Ce n'est pas pour autant qu'il devient moins orangé. Mais il y a aussi des périodes où il y a beaucoup de. Ce n'est pas pour autant qu'il devient plus orangé qu'avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, de par leur éducation, le milieu dans lequel ils ont évolué, etc., mènent une vie de péché terrible. Dès qu'ils passent, on voit tout de suite le péché. Ce sont des gens agités. Ils ne peuvent pas dire deux mots sans mentir. Voilà. Ce sont des gens, quand ils sont là, on sait que le péché est là. J'étais avec quelqu'un, ici, hein, surtout ici chez nous. Cet homme-là me dit, mais pasteur, j'étais avec mon épouse ici. Et nous étions effectivement avec son épouse. Un ministre a commencé à draguer sa femme. Terrible. Je ne sais pas si tu es là, ministre. Non, je... Oui, oui. Il me dit, il me pose la question, c'est votre épouse? Je dis, mais oui, c'est mon épouse. Ah bon? Vous vivez ensemble? Vous savez, malheureusement, il y a des gens sans aucune culture, sans aucune éducation, qui ont peut-être atterri dans la responsabilité ministérielle, je ne sais par quelle faveur. Alors, ils pensent que tout leur est permis. Vous voyez? C'est souvent ces gens-là, quand ils marchent, c'est comme si le monde devait s'arrêter. Vous voyez? Des parvenus. Des parvenus. Ah bon? Ah, c'est ah, elle est jolie, hein? Allez. Il a commencé à la draguer. Donc, il y a des gens comme ça, qui sentent le péché, qui puent le péché. Rien qu'à voir leurs yeux, c'est rempli d'arrogance, d'orgueil. Voilà. Mais il y en a d'autres, de par leur éducation. Ils ont appris à dire merci dès le bas âge. Ils ont appris à saluer les gens. Ils ont appris à être gentils envers tout le monde. N'est-ce pas? Ils ont appris à être honnêtes. À faire preuve de probité intellectuelle, morale. Ils ont appris tout ça. Ce sont des valeurs qu'ils ont apprises. Voyez? Ils ont appris à être généreux, à soutenir certaines causes. Par exemple, aider l'orphelin, aider la veuve, etc. Voyez-vous? Des gens tellement bons qu'ils n'oseraient tuer un moustique. Parce que pour eux, le moustique a droit à la vie. Donc, il y a des gens comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne pêchent pas comme l'autre qui est agité. Partout il passe, il fait des dégâts. Que ceux-là seraient moins pécheurs et que l'autre serait plus pécheur. Non. Ils sont tous... Et par rapport à cet état, eh bien, il n'y a pas d'autre solution en dehors de l'évangile du Christ. Lui seul est capable de nous arracher de cet état et de nous faire entrer dans un nouvel état de réconciliation avec Dieu. Alléluia. Lui seul est capable, mes amis, de nous guérir, car le péché est la plus terrible des maladies. La maladie la plus mortelle qui tue le corps, mais aussi qui tue l'âme. À cause du péché, l'homme est appelé à endurer la colère de son Créateur. L'homme est appelé à vivre loin de son Créateur, dans l'au-delà, à cause du péché. Et par rapport à cette terrible maladie qui gangrène l'humanité, cette terrible maladie qui détruit l'homme, quel est le remède? Vous le savez tous, mes amis, et je vais terminer par là. Face à la maladie, il arrive que nos corps guérissent par eux-mêmes. Oui ou non? Oui. Donc, un peu de fièvre, vous ne vous sentez pas bien et tout ça. Vous faites un effort. Au bout d'un certain temps, c'est fini, la maladie part. Mais dans la plupart des cas, il nous faut prendre des médicaments, n'est-ce pas? C'est bien. Mais lorsqu'il est question de la maladie, que le péché. Lorsqu'il est question de cette terrible maladie, laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas d'autre remède en dehors de l'évangile du Christ. Voilà pourquoi nous devons prêcher ce message. L'évangile guérit l'âme, guérit l'esprit et peut guérir aussi le corps. Vous comprenez pourquoi le Seigneur ne s'est pas contenté que de demander à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Mais il leur a aussi donné le pouvoir de guérir les malades, mais aussi le pouvoir de chasser les démons. Oui, l'évangile est le seul message qui délivre l'homme du pouvoir du diable, du pouvoir des ténèbres. Le monde est de plus en plus envahi par des démons, par des esprits impurs. Il y a de quoi sur cette terre. Il y a dans notre ville de Kinshasa de quoi où certaines entités démoniaques font régner leur roi. Ce que vous voyez autour de vous, cette immoralité, cette corruption, ces choses terribles, la magie, l'occultisme, tout cela, il y a de quoi où les gens, où les jeunes filles, à 12, 13 ans, elles sont déjà enceintes. Il y a de quoi où personne, mes amis, ne progresse dans la vie. Personne n'arrive à décrocher un diplôme d'État. Les gens tournent en rond. Oui, il y a de quoi infester des démons, sous la domination des entités démoniaques. Quelle est la réponse? Quel est le remède? Comment pourrions-nous, mes amis, mettre en déroute ces entités démoniaques? Un seul nom. Jésus de Nazareth. Il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de chasser les démons. Alors n'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur de tous ces gens qui pratiquent la magie. Ces gens qui sont dans telle ou telle autre société mystique ou secrète. Faut pas avoir peur. Oui, mon chef appartient à la loge la plus puissante. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est une bicoque de ténèbres dans laquelle il est entré. Celui qui est en toi est plus fort. Vous devriez regarder votre chef en face. Celui qui devrait avoir peur de vous. Pas le contraire. Alors vous trouvez, oh les francs-maçons, amenez-les-moi. Nous les attendons ici. Ce sont des âmes pour lesquelles Jésus est mort. Alors on en fait tout un foin autour. Voilà. Il y en a qui pensent même que c'est des anges sous forme humaine. Non. Ce sont des gens comme vous. Mais malheureusement, beaucoup sont tombés entre les mains du diable. Jésus est tout puissant. Quand Jésus est vraiment avec nous, nous avons toutes les raisons de marcher la tête haute. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors annoncez ce message, proclamez cet évangile. Les gens ont peur tout le temps des sorciers ici chez nous, peur de toutes sortes de traditions. Les gens sont paralysés, les gens sont stupéfaits. À chaque fois qu'il y a telle ou telle autre personne qui se présente comme étant la référence en matière de sorcellerie dans telle ou telle autre province, alors ils ont peur. Ah ben oui, mais avec lui il faut faire très attention. Mon ami, alors tu ne connais pas la vérité. Que Dieu t'aide, qu'il t'ouvre les yeux, que tu réalises que celui qui est en toi là s'appelle le Tout-Puissant. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions des ténèbres, sur les caïmans de l'enfer. Il t'a donné le pouvoir. C'est à toi d'avancer. Eux doivent te craindre et non pas toi. Mais tout ça, beaucoup d'entre nous, n'ayant pas la connaissance, alors ils paniquent. Il y a un deuil. On commence à paniquer. Ah non, il semble que dans ces quartiers, les sorciers sont attirés par la dépouille. Faisons tout pour aller l'enterrer. Comme ça, les démons ne viennent. Oh là 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 là. Ce n'est qu'un cadavre. Je sais, on est trop superstitieux ici chez nous. Il y en a qui n'oseraient pas se retrouver seul avec une dépouille. Hein? Oui ou non? En Europe, j'avais des réunions, et je peux vous assurer, j'ai eu accompagné beaucoup dans leur fin de vie. Il m'est arrivé à plus d'une fois de terminer une réunion, surtout en hiver, déjà à 18h, il fait déjà noir. Je termine une réunion à 20h. C'est seulement à cette heure-là que je me dirige vers le funérarium. Dans le noir. Hein. Quand vous arrivez, il dit, voilà, je viens voir tel, ce fut mon collaborateur. Ah, ok. Eh bien, le préposé de pompe funèbre, il vient, il vous ouvre. Vous entrez, il ferme la porte seul. Vous voyez certains comment ils réagissent. Mais c'est rien du tout. Vous voyez, pourquoi avoir peur? Il n'y a rien. La personne est partie. Si elle est partie dans le Seigneur, elle est dans la joie. Ça, c'est le reste, simplement, qu'on va déposer en terre, et puis,
Il me regardait dans du cercueil, il me regardait.
Alors on fait des cauchemars, on ne dort plus et tout ça. Et Jésus est tout puissant, alléluia. Je voudrais que nous l'acclamions très fort. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci de nous aider à répandre cette bonne nouvelle tout autour de nous. Le salut n'est qu'en toi. Le salut n'est que par toi. Sans toi, Seigneur, c'est l'enfer assuré. Alors aide-nous à répandre cette bonne nouvelle tout autour de nous. Merci pour tout, Seigneur.